Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Moi, je crois que ce livre est inspiré de Dieu. Et vous? C'est pas n'importe quel livre, c'est un livre surnaturel. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et on va dire ceci, donc prenez vos Bibles, on va dire ceci. Voici ma Bible.
Voici ma Bible.
C'est la parole inspirée de Dieu.
C'est la parole inspirée de Dieu.
Je suis tout ce qu'elle dit que je suis.
Je suis tout ce qu'elle dit que je suis.
Et je possède.
Et je possède.
Tout ce qu'elle dit que je possède.
Tout ce qu'elle dit que je possède.
Et je peux faire.
Et je peux faire.
Tout ce qu'elle dit.
Tout ce qu'elle dit.
Que je peux faire.
Que je peux faire.
Je vais maintenant recevoir.
Je vais maintenant recevoir.
La semence incorruptible.
La semence incorruptible.
De la parole de Dieu.
De la parole de Dieu.
Je ne serai jamais plus pareil.
Je ne serai jamais plus pareil.
Je serai pour toujours.
Je serai pour toujours.
Et à jamais.
Et à jamais.
Changer.
Changer.
Et transformer.
Transformer.
Dans l'image de Jésus-Christ.
Dans l'image de Jésus-Christ.
Amen. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Mais je suis tellement content que tu es là ce matin.
C'est merveilleux d'être ensemble.
Et c'est vraiment merveilleux. On va avoir un bon temps. Donc, vous savez que ce matin, on continue notre série de 40 jours en seul but. On est déjà rendu à notre quatrième objectif. On a déjà étudié l'adoration, la communion, le discipulat la semaine passée. Et ce matin, on va continuer à voir un autre aspect de notre vie chrétienne qui est tellement important. Moi, je vais commencer ce matin en lisant un verset et par la suite, je vais donner la parole à Pasteur John. Il va introduire des pensées à nous aussi qui vont être vraiment révolutionnaires ce matin. Mais si vous voulez regarder dans votre Bible ou dans vos notes, on va lire ensemble en Pierre chapitre 4 et le 10e verset. Vous savez, il y a une raison pour laquelle nous sommes ici sur la terre. Il n'y a personne ici par hasard. Même si papa et maman pensaient que c'était par hasard que vous êtes là, hein? même s'ils pensent qu'ils se sont trompés, ils ont fait une petite erreur, vous n'êtes pas une erreur, vous êtes ici selon le plan de Dieu. Amen?
Amen.
Hein? Regardez la personne à côté de vous, dites, vous êtes ici pour un but.
Vous êtes ici pour un but.
Amen. 1 Pierre 4, 10 dit, « Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Mais que chacun de vous mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Moi, je vois dans ce verset plusieurs choses, mais deux choses que je veux souligner, c'est que chacun a quelque chose à faire dans le corps de Christ et chacun a un don, une grâce pour l'accomplir.
Amen.
C'est-à-dire que vous êtes doué. Si vous êtes en Jésus, vous êtes doué. Même si vous n'avez jamais réalisé, vous n'avez jamais compris, vous avez un don. Un chrétien doué n'existe pas. Vous savez? Hein? Regardez l'autre personne à l'autre côté et dit « Vous êtes doué. »
Vous êtes doué.
Et dit ça avec enthousiasme ce matin. Hein? Comme si vous êtes vraiment convaincu. Hein? Je sais qu'il y a des points d'interrogation. Peut-être vous regardez votre épouse et vous dites « Vous êtes doué. » Mais non, vous devrez être vraiment convaincu. Chérie, vous êtes vraiment doué. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire, et c'est ça notre quatrième objectif qu'on va voir ce matin. Mon quatrième objectif dans la vie est le ministère. Un autre mot pour le ministère, c'est tout simplement le service. Hein? Faire du service, rendre service, c'est faire du ministère. En fait, Jésus a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et une chose qui est dans vos notes, qui est bien importante, c'est que personne n'est sauvé pour s'asseoir. Hein? Mais mon pasteur l'a dit, je ne vais jamais oublier, j'étais un petit garçon et j'ai entendu mon pasteur dire que personne n'est sauvé pour s'asseoir, sauf qu'il ne l'a pas dit en français. Hein? « No one saved to sit », il a dit en anglais, mais j'ai toujours retenu cela. Mais nous sommes tous sauvés pour servir. Et ce matin, ma prière, notre prière, c'est que vous allez pouvoir réaliser et avoir une révélation de votre objectif dans la vie concernant votre ministère. Vous avez un ministère à exercer et votre ministère est autant d'importance que nos ministères en tant que pasteur. Amen. Et en fait, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que servir Dieu dans un ministère, c'est un privilège. Et Pasteur Jean va nous en parler.
C'est un privilège de servir les autres. C'est vraiment la vie. Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie, et la vie même en abondance. Quand nous rencontrons Dieu, quand Dieu est dans notre vie, nous recevons de Dieu la vie. Mais il nous a promis plus que cela. Il nous a promis la vie abondante.
Amen.
Et quand nous servons les autres, nous commençons à vivre la vie abondante. Et comme Pasteur Ken a bien dit, il nous a donné chacun quelque chose à offrir aux autres. Et c'est un privilège de pouvoir servir les autres. On va regarder ensemble en 1 Timothée, chapitre 1, on va lire 12 à 15. Il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qui m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. » C'est ce que Dieu veut faire. Il veut vous établir dans le service.
Amen.
« Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, je suis moi le premier.
Amen.
Nous connaissons un petit peu sur l'apôtre Paul. Il était enseigné au pied de Gamaliel qui était un érudit de la religion juive. Il allait prendre place en tant qu'un des gros chefs juifs, mais quand ce chemin de Jésus a commencé, il a commencé à persécuter l'Église à outrance. Il voulait détruire l'œuvre de Dieu. Et vous vous rappelez qu'il a eu cette rencontre avec Dieu, tombé de cheval, aveuglé pendant 3 jours. Et je pense qu'après tout ça, après avoir réalisé qu'il était en erreur, qu'il marchait à la rencontre de Dieu, il pensait peut-être qu'il est devenu inutile. Mais Dieu l'a repris et dit, je peux vous utiliser, Paul.
Amen.
Je peux t'utiliser. Amen. Et je crois que c'est le mot que Dieu veut mettre dans votre cœur ce matin. Peu importe votre passé,
Amen.
Dieu veut vous utiliser pour bénir le monde autour de vous. Et c'est un privilège. Dis à moi, c'est un privilège.
C'est un privilège.
De servir les autres.
De servir les autres.
C'est une telle joie, n'est-ce pas, de pouvoir offrir aux autres ce que Dieu nous a donné. De savoir que nous sommes utiles. Je crois aujourd'hui nous sommes dans une grave épidémie dans notre monde, des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc ce matin, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Il y a une raison d'être là. Vous avez quelque chose que je n'ai pas, que Pasteur Ken n'a pas, que nos femmes non plus n'ont pas. Vous avez quelque chose à offrir dans l'Église. La semaine prochaine, vous allez parler de ce que vous allez offrir à l'extérieur de l'Église, mais vous avez quelque chose à offrir dans l'Église pour bénir vos frères et sœurs et aider les gens à marcher avec Jésus. Quelqu'un dit Alléluia.
Alléluia.
C'est une bonne chose et c'est un privilège de servir les autres.
Amen. Alléluia. Vous savez, après cela, si vous regardez dans vos notes, on va voir que servir Dieu, ce n'est pas juste un privilège, mais servir Dieu dans un ministère, c'est aussi un processus. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est parce que une chose qui est super importante à comprendre et à saisir, c'est que même si Dieu a appelé chaque personne ici présente à servir Dieu et servir les autres dans un ministère et à mettre au service des autres le don qu'il a reçu, que personne ne va commencer dans le ministère là où il va terminer. C'est un processus. Combien de vous, quand vous êtes venu au monde, vous avez commencé le travail le lendemain? Hein? Les nourrissons ne travaillent pas, vous êtes d'accord? Mais c'est la même chose dans le corps de Christ. Il y a un processus à suivre pour découvrir votre ministère et découvrir votre raison d'être. Et il y a plusieurs choses que je veux voir là-dessus, un couple de versets qu'on a mis ici, qu'on va lire ensemble. En fait, quand Timothée était en train de lire qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit. Il a lu ceci, on parle des diacres. Vous savez c'est quoi un diacre? On a parlé de ça des fois dans les églises, les anciennes, les diacres, mais un diacre c'est tout simplement un serviteur. Il y a des personnes qui ont mis toutes sortes de profils de poste attachés à ce nom de diacre qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'un diacre, c'est quelqu'un qui va gouverner l'Église, mais ce n'est pas du tout le cas. Un diacre, c'est tout simplement un serviteur. Et Paul a dit à Timothée que ces personnes qui vont servir Dieu, qui vont servir dans le ministère, il dit ici qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite le ministère s'ils sont sans reproche. Donc, on voit que pour servir Dieu dans un ministère, il y a un temps de préparation. On a besoin d'être formé, on a besoin d'être préparé. Notre vie devrait être en ordre. On ne dit pas qu'il faut être parfait, parce qu'il n'y a personne ici qui est parfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Si ça prenait la perfection pour être dans le ministère, Pasteur John et moi, on aurait besoin de s'asseoir tout de suite. Hein? Je sais que vous êtes vraiment déçus de savoir, hein? Je sais que vous avez eu cette image de nous, on est vraiment l'image de la perfection, mais c'est pas vrai. Mais on commence toujours quelque part dans le ministère, mais c'est un processus, il faut grandir. Il a mentionné l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas commencé comme apôtre, même après avoir eu la rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Il y avait un processus à suivre. Et on voit qu'il a commencé son ministère comme apôtre seulement en Actes chapitre 13. Peut-être une vingtaine d'années après avoir donné sa vie au Seigneur. On voit aussi qu'il y a des personnes comme en Actes chapitre 6. Vous vous rappelez de l'histoire? L'Église à Jérusalem était en pleine croissance. Il y avait tellement de personnes qui savaient plus quoi faire avec les veuves parce qu'il y avait un ministère pour donner la nourriture aux veuves de l'Église de Jérusalem. Et à un moment donné, il y avait tellement de veuves, tellement de personnes qu'il y avait un groupe qui commençait à se plaindre en disant que nos veuves sont négligées dans la distribution de nourriture et il y avait un peu de friction à cause de cela. Et les apôtres, ils ont ressenti la pression du peuple. Le peuple voulait que les apôtres prennent le temps d'arrêter de prier, arrêter de prêcher et d'aller servir la soupe. Et les apôtres ont dit, non, ça serait pas bon pour nous de laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Mais choisissez parmi vous 7 hommes qui ont un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit et on va leur donner cette tâche, ses responsabilités. Et ça, c'est les premiers diacres dans l'Église. C'est 7 hommes qui ont été choisis. Et parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Philippe. Est-ce que vous vous rappelez de Philippe? Philippe a commencé dans son ministère en servant la soupe, en faisant du ministère aux veuves. Mais plus tard, le Seigneur s'est servi de Philippe pour faire des miracles, des signes, des prodiges. Et Philippe est descendu dans une ville de Samarie en Actes chapitre 8 et toute la ville fut sauvée. Hein, il y avait des boiteux qui marchaient, il y avait des démons qui furent chassés, il y avait toutes sortes de personnes délivrées de la puissance des ténèbres. Et plus tard dans la Bible, on voit que Philippe est appelé l'évangéliste. Et beaucoup de personnes disent, ah oui, moi aussi je veux être dans le ministère, j'aimerais être pasteur. Bon, mais commence quelque part, fais quelque chose. Mais je veux être évangéliste. OK, bon, mais on a besoin d'aide dans la pouponnière. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... laisse-moi vous dire, il y a vraiment un lien avec le ministère du pouponnière et le ministère des évangélistes. Hein? Il y a des couches à changer dans la pouponnière et des couches spirituelles à changer dans le monde aussi. Laisse-moi vous dire, je dis cela parce que beaucoup des chrétiens, ils vont manquer la coche parce qu'ils veulent commencer là au lieu de commencer au commencement. Et le ministère... C'est un processus. On grandit dans le ministère. Amen. Donc, après ça, on va voir que c'est pas juste un privilège. C'est pas juste un processus. Mais comme Pastor John va nous dire, c'est aussi un partenariat.
Oui, je voulais partager parce que je travaille avec une équipe pastorale. Dans l'église, on a beaucoup de gens qui se sont levés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous venons d'imprimer notre 36e livre en français, le livre d'enseignement. Et mon père, mes parents travaillent avec nous. Ma mère est partie au ciel il y a 3 ans, mais mon père, il vient de fêter ses 78 ans. Et il travaille en partenariat. Je ne peux pas accomplir ce que Dieu m'a dit faire sans l'aide des autres.
Amen.
Et surtout dans ce ministère d'édition Victoire, j'ai besoin de lui. Mais il n'a pas commencé là. Mon père s'est converti après avoir eu 55 ans. Il s'est tourné vers Dieu. Donc on était une famille qui n'était pas élevée dans l'église. On n'avait pas la Bible. Mais mon père est allé trouver mon pasteur après qu'il a vu ses deux filles, son fils, son deuxième fils, tous les quatre de ses enfants se tournaient vers Dieu et Dieu a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Et il est allé trouver mon pasteur et dit, est-ce que vous pouvez m'enseigner la parole de Dieu? Et après 55 ans, il s'est donné au Seigneur et mon pasteur était un homme très sage. Mon père était homme d'affaires, il voyageait beaucoup et mon pasteur lui a demandé, est-ce que vous pouvez venir tout le matin et mettre les chaises et accueillir les gens? Et mon père a commencé en mettant les chaises pour la réunion du matin. Il y avait une réunion tôt à 9h et en accueillant les gens. Et après, mon père avait à cœur des livres. Il a demandé au pasteur, est-ce que je peux mettre une petite table avec des livres dessus? Et le pasteur dit, d'accord, ok, vous avez montré que vous êtes fidèle avec les chaises, avec l'accueil. Maintenant, vous pouvez mettre des livres. Aujourd'hui, il dirige un ministère international qui touche tout le monde francophone et les Français dans les autres pays aussi. C'est un Amen. Processus, ouais, et je viens d'entendre ma femme qui vient de partager avec nos étudiants, il ouvre sa bouche et partage la parole de Dieu. Il n'est pas prédicateur, mais il enseigne bien la parole de Dieu aujourd'hui. C'est un processus, mais c'est un partenariat. Et nous avons besoin de comprendre que seul, nous n'allons jamais accomplir tout ce que Dieu nous a donné faire. Amen. Nous avons besoin de l'Église, on a besoin les uns des autres. Donc, regardons ensemble, dans 1 Corinthiens chapitre 3, des choses qui, je pense, nous aident énormément de comprendre que toutes seules, nous ne pouvons pas arriver. On a besoin les uns des autres. Tournez vers la personne à côté de vous et dites, j'ai besoin de vous. Et continue et dites, et vous avez besoin de moi.
Amen.
Parce que c'est un partenariat. Qu'est-ce qu'il dit en 1 Corinthiens 3, 5 à 10? Il dit, qu'est-ce donc Apollos? Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Apollos, mais Apollos est un des autres apôtres que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est évident, on entend plus parler de Paul, parce que celui qui a écrit les actes des apôtres, Luc, était avec Paul, et après Paul a écrit les autres épîtres. Mais Apollos était un homme de Dieu extraordinaire, et Paul est en train de régler quelque chose ici, parce que les gens étaient en train de mettre leur confiance en Apollos ou en Paul, et il dit non, on met notre confiance en Dieu.
Amen.
Amen. Vous allez faire une erreur si vous mettez Pasteur Ken sur un pédestal.
Amen.
Si vous mettez aucun homme ou aucune femme sur un pédestal, ça va vous créer des problèmes plus tard. Il faut élever un seul nom qui est le nom de Jésus. Mais Dieu utilise les hommes et il utilise les femmes dans nos vies. Mm-hmm. Il nous a utilisés peut-être pour vous aider, mais il vous utilise pour nous aider aussi. C'est un partenariat. Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et nous avons toujours besoin de garder ça. Dieu peut utiliser Pasteur Ken, et je sais qu'il a utilisé Pasteur Ken pour bénir votre vie. Mais c'est Dieu. Amen. À travers Pasteur Ken. Et si vous permettez, Dieu à travers votre vie va bénir quelqu'un d'autre. Plusieurs personnes. On va continuer à lire, n'est-ce pas? Hallelujah. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux.
Amen.
C'est un partenariat, nous sommes égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Dis récompense.
Récompense.
Nous avons le privilège de servir Dieu et il y a une récompense. Amen.
Amen.
Selon son propre travail. Si on s'assoit, on ne fait rien, il n'y a pas de travail fait, il n'y a pas de récompense. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. On a un partenariat ensemble, Ken et moi. Nous travaillons depuis des longues années parce qu'il a vécu 2 ans à Nice. Mais pendant les 5 ans avant, Ken et Tonya venaient régulièrement dans notre église et enseignaient la parole de Dieu et encourageaient l'église. Et nous continuons à travailler ensemble avec les livres, avec le centre de formation biblique. Nous travaillons ensemble. Il y a un partenariat entre nous avec Dieu.
Amen.
Amen. Alors nous sommes ouvrés avec Dieu. Écoutez bien, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, Paul dit, comme un sage architecte. un autre bâti dessus. Parce qu'après que Paul avait fondé l'église à Corinthe, Apollos est venu et il les a enseignés. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, il faut que nous comprenions cette partenariat. Nous travaillons avec les hommes, avec les femmes. Nous travaillons ensemble en respectant les uns les autres, en encourageant les uns les autres, mais nous travaillons en même temps avec Dieu parce que c'est lui qui nous a dotés. Il nous a donné quelque chose par laquelle nous pouvons servir. N'est-ce pas, Pastor Ken?
Amen. Vous savez, je pense à ce partenariat aussi. C'est comme le corps de Christ. La Bible dit que nous sommes le corps. Jésus est la tête, mais nous sommes les membres en particulier d'un corps. Il n'y a aucun membre de ton corps qui peut fonctionner ou agir indépendamment des autres membres.
Ah, tout à fait.
Hein? Si vous n'êtes pas convaincu, on peut faire un essai. Hein? Essayez d'enlever ton cœur de ton corps et voir qu'est-ce que ton cœur peut faire. Pas grand-chose. Ton corps ne peut pas faire grand-chose non plus. Enlève un doigt de ton corps et le doigt va faire quoi? Le doigt va mourir. Ton corps va peut-être continuer à vivre, mais le corps va souffrir. Le corps sera moins efficace. Et c'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut jamais, jamais, jamais accomplir le plan de Dieu pour notre vie sans être attaché au corps de Jésus-Christ. Et on sait bien que le corps de Jésus, c'est l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Amen.
Et on ne parle pas d'une institution humaine, on parle d'un organisme divin. L'Église de Jésus qui est universelle d'abord et puis locale. Et laisse-moi vous dire que ma passion, c'est pour l'Église de Jésus-Christ.
Amen.
Ma passion, c'est pour l'Église parce que c'est sa passion aussi. Mais si vous voulez, on peut regarder une autre chose. Parce que là, on a parlé de l'importance de servir Dieu dans un ministère. Que c'est un privilège, c'est un processus, c'est un partenariat. Mais, comme je dis souvent, OMC. Oui, mais comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre cela en pratique? Parce que si vous quittez aujourd'hui juste en disant « Ah oui, je suis doué. Oui, c'est un privilège de servir Dieu. Oui, c'est un processus. Ah oui, c'est un partenariat. » Mais vous ne faites rien, ça ne changerait pas le monde, ça ne changerait pas votre vie non plus. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est les vies changées aujourd'hui. Et en fait, il y a trois choses qu'on va vous exhorter, on va vous encourager à faire. Trois décisions que vous avez besoin de prendre afin de pouvoir exercer votre ministère ou servir Dieu dans un ministère. Et la première chose, si vous êtes doué, et tout le monde dit «
Je suis doué »,
première chose, il faut découvrir votre don, n'est-ce pas?
Amen.
Hein? On peut avoir un don qui est à l'intérieur de nous, qui est caché à l'intérieur de nous, mais si on ne sait pas, si on est dans l'ignorance, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne pas grand-chose. Vous avez un don que vous avez besoin de découvrir. Il y a plusieurs dons qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a des dons du ministère, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de la parole de Dieu. Les dons du ministère sont les hommes qui sont placés dans le corps pour édifier et enseigner le corps de Christ. Et pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. Il y a aussi les dons de l'Esprit, qu'est-ce qu'on appelle les manifestations de l'Esprit. Il y en a 9 qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Hein, les 3 dons de puissance, qui est le don de la foi particulière, le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Et aussi les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il y a des dons vocaux, la prophétie, l'interprétation des langues et les langues. Ça, c'est toutes des choses importantes. Mais il y a aussi quelque chose, la Bible nous dit qu'on a tous un don qu'on appelle les dons de motivation. Et chacun de vous avez un don qui reste et qui réside à l'intérieur de vous. Ça fait partie de votre personnalité, de qui vous êtes. Et ça, c'est un genre de don que vous pouvez activer à volonté. N'importe quand, n'importe où, si vous savez que vous avez ce don, vous pouvez la mettre en pratique et le mettre au service des autres. Amen. Et en fait, si on lit en Romains chapitre 12, ici en verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Et cette prophétie-là, ce n'est pas juste de prophétiser, c'est le don de motivation de la prophétie. C'est des gens qui sont capables de voir les choses claires, noires et blancs. Et c'est des gens qui sont capables de distinguer entre la vérité et les mensonges facilement même. Il dit, verset 7, que celui qui est appelé au ministère ou au service s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Celui qui préside ou gouverne le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et laisse-moi vous dire, c'est tellement de fun de découvrir que nous avons les dons. Hein? Et juste un instant, j'ai un peu soif. Et c'est bon de savoir que nous avons des dons. Ah! Oh! Imaginez, juste un instant. Imaginez si ce n'était pas embouté en plastique, que c'était vraiment vert, fragile. Et là, on vient d'avoir le verre cassé en 1000 morceaux. Vous savez que les 7 dons qu'on vient de voir dans ce passage-là vont se manifester tout de suite et vous allez découvrir un peu quel est votre don de motivation. Comment ça? Parce que la première chose, il y a certaines personnes qui ont le don de prophétie, qui ont la capacité de voir noir et blanc. Ils vont venir me voir après l'église ou peut-être même pendant l'église, tout de suite après, ils vont dire, « Mais pasteur, tu n'aurais jamais dû mettre le verre là. » C'est pas sage de mettre le verre là. C'est tombé, tu vois. Tu n'aurais jamais dû le faire. Ils vont voir tout de suite. Noir et blanc. Il y a d'autres personnes qui ont ce don de ministère ou de service. Hein, ils veulent aider. Ils veulent venir au secours. Et tout de suite, quelqu'un va se lever debout et va commencer... commencer à ramasser les morceaux, n'est-ce pas? Celui qui a le don d'enseigner va venir me voir après et dire, « Mais pasteur, je veux juste te montrer un truc. » La prochaine fois, quand tu es en train de prêcher, tu as soif, tu prends une petite gorgée d'eau. Au lieu de mettre la bouteille là, si tu le mets en arrière du lutrin, il y a une petite tablette, ça va être juste parfait comme ça, tu n'auras jamais plus de problème. La personne va commencer à m'enseigner, n'est-ce pas? Hein? Je vois les personnes en train de sourire et rire parce que vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Hein? Celui qui a le don d'exhortation va dire, « Oh, pasteur, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein? » On s'arrête pas là. Et celui qui a le don de donner, il va arriver à l'église la semaine suivante avec 12 verres qu'il a trouvé en spécial à chez Walmart. Il a dit, là, tu as 12 verres, tu es bon pour une bonne année au moins. Hein? Tu as le droit de casser une fois par mois. Et celui qui a le don de miséricorde va être ému de compassion. Laisse-moi te dire, son cœur va être brisé, il va ressentir le chagrin, il va être embarrassé pour le pasteur. Oh, pauvre pasteur, il vient de casser le verre. Oh, les larmes aux yeux. Il va venir me consoler après, oh pasteur. Oh. Et on va pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais vous savez que nous avons ici à la vie comblée tout un système pour vous aider à découvrir vos dons. Si on va vous en parler plus tard, mais nous avons les cours de base qu'on donne. Et un de ces cours, c'est découvrir la vie comme son serviteur. Et dans ce cours, on vous donne même toutes sortes des éléments et des outils qui vont vous aider à découvrir votre don de motivation et aussi l'onction spéciale que vous avez sur votre vie que vous pouvez mettre en service des autres. Donc, première chose à faire, hein, c'est de découvrir votre don. Mais après ça, on a besoin de développer son don. Et Pasteur Jean va nous en parler.
Ce que vous avez remarqué, souvent le don que Dieu veut que vous utilisez dans l'Église, c'est le don que vous utilisez dans le monde. Et vous savez très bien que si vous êtes vendeur, il faut développer votre façon de vendre, n'est-ce pas? Il faut développer votre façon de parler avec les gens, de recevoir les gens, d'expliquer les choses. Et c'est exactement pareil, parce que nous avons un don, ne veut pas dire que ce don est parfait. Chaque personne fait cette erreur pensant, mais si ça vient de Dieu, ça doit être parfait. Moi, je dis, c'est parfait, mais c'est dans son enfant. C'est un don bébé, si on veut dire. Et ce don bébé a besoin de se développer et grandir. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé de parler devant les gens, je savais pas comment faire, vous savez. Et ma femme dit, tu joues tout le temps avec ta bague, et tu enlèves ta bague, et tu remets ta bague, et tu es en train de distraire les gens, et il faut développer ça. Et je me mettais comme ça sur mes pieds. Tout le temps, et heureusement, il y avait ma femme, et ma femme m'aidait à développer, à être décontracté, parce que tu sais, si nous sommes stressés ici, vous imaginez comme quand vous êtes, je pars comme ça, pendant tout le temps, et vous allez partir à la maison, et, okay. N'est-ce pas? Et en tant qu'orateur, j'ai eu besoin de développer cela en faisant. Amen. Une grande partie, il faut que nous nous rappelons que Jésus nous sauve, et après, il veut faire de nous des disciples. Et nous avons cette magnifique image des disciples de Michel-Ange qui a peint quelques des plus gros beaux tableaux du monde. Mais vous savez, la plupart n'étaient pas pain par lui-même, tout seul. Il y avait des disciples, les gens à côté de lui qui étaient en train de peigner, et il disait, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Amen. Si nous restons ainsi, disant, mais j'espère que mon don va un jour être découvert, ça ne va pas être découvert. Il faut que nous nous mettons au travail pour que ce don puisse se développer. Donc, regardez avec moi, voir ce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 4, parce que je crois que l'Église, c'est un contexte où nous pouvons vraiment développer le don qui peut-être va nous faire réussir dans le monde aussi.
Amen.
Pourquoi c'est un bon contexte? Parce que dans l'Église, nous sommes aimés. Dans l'Église, nous n'allons pas critiquer quand nous faisons une erreur. Les gens vont avoir patience avec nous. Donc, moi, je dis, c'est comme un cerf de verre. Ouais. J'habite sur la Côte d'Azur, et si vous passez, surtout en Italie, il y a des milliers et des milliers sur toutes les collines, des cerfs de... Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a beaucoup de vent. Quelquefois, il fait froid. Ouais. Je crois qu'on est descendu à 30 une fois cette année. Hein? Cet après-midi, il fait 55 à Nice. Le soleil brille. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, oui, oui. 15 centigrades, oui. Mais il y a des serres de verre pour protéger les jeunes plantes. Et l'Église est un serre pour nous où on peut être protégé. On peut recevoir le soleil, mais les éléments forts ne vont pas nous atteindre. Et ça va nous aider à développer ce talent qui peut-être Dieu va nous appeler après d'emmener dans le monde et utiliser. C'est très intéressant quand même. Dieu vous a donné une personnalité, Dieu vous a donné un caractère, oui, et il veut développer cela, et votre don fait partie de tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il dit en Éphésiens 4, verset 11? Il dit, « Et il a donné, Jésus a donné, les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme prophètes, excuse-moi, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » En vue de l'œuvre du ministère. Donc, sur votre feuille, il dit, tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Quelquefois, nous avons fait l'erreur de penser que les pasteurs sont là pour faire l'œuvre du ministère. Que les pasteurs, et on dit, j'ai un super pasteur, il fait ceci, il fait cela, il fait le reste. Vous savez, moi je dis à mon église, nous ne sommes pas des prêtres. Nous ne sommes pas là pour vous représenter devant Dieu, ouais, ou représenter Dieu pour vous. Nous sommes là pour être des exemples, et pour vous former, pour que vous puissiez faire votre travail. Et peut-être une des grandes différences entre l'Église traditionnelle et l'Église évangélique, c'est que nous voulons que chacun participe. Pourquoi? Parce que nous l'avons lu dans notre Bible. Mais quelques chrétiens pensent encore que le pasteur doit tout faire. Si on appelle l'Église et on a besoin d'une visite, il faut que le pasteur vienne. Si le pasteur vient, ça ne suffit pas. Je suis malade à l'hôpital et le pasteur est en voyage, il faut qu'il arrête ses vacances, il faut qu'il arrête de prêcher où il est, il faut qu'il rentre pour moi. Mais c'est un peu triste, vous savez, parce que ça limite énormément ce qu'on peut faire en tant qu'Église. L'idée, c'est que ces ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, forment les autres. Pour moi, ça ne fait rien qu'ils prient quand quelqu'un est malade, tant que le malade soit touché par Dieu. Et je vois beaucoup plus des gens guéris par la prière des membres de mon Église que par moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps pour leur former, pour les apprendre quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison divine et comment aller vers les gens, leur apporter la parole et imposer les mains et les voir guéris. Et je me réjouis. Je me réjouis aujourd'hui d'être ici au Québec et en train de prêcher à vous. Et à Nice, ils ont une super réunion. Les gens étaient bénis et j'étais pas là. Mais c'est super, n'est-ce pas? L'église fonctionne. Et quelquefois, les gens disent, mais l'église, ça va, ça marche quand vous êtes là? Je dis oui. Ma vie marche mieux souvent quand je ne suis pas là. C'est génial. Pourquoi? Parce que les autres ont des opportunités de servir encore plus quand je ne suis pas là. Amen. Quelquefois, quand je suis là, ils disent, c'est comme à la maison. Papa est là, laisse papa tout faire. Mais vous avez très bien un père, une mère, qui laisse les enfants s'asseoir et fait tout pour eux, ne les éduque pas bien. Ils ne développent pas bien. On a besoin de laisser nos enfants venir faire la vaisselle avec nous, n'est-ce pas? Qu'on sort pour laver la voiture. Peut-être pas aujourd'hui, hein? On laisse les enfants, on les apprend comment faire, n'est-ce pas? Et s'ils ne font pas bien, on les reprend gentiment et on les encourage et on les développe. Pourquoi? Parce qu'un jour, ces enfants vont quitter la maison. Et on veut qu'ils soient établis dans la société comme bénédiction, n'est-ce pas? Qu'ils puissent
oui, travailler et payer leur électricité, et laver leurs voitures et leurs vêtements. Je suis toujours étonné quand les jeunes hommes partent pour faire les études et ils rentrent le week-end pour apporter leur linge sale à maman. Et je dis que c'est triste. Ce sera mieux qu'ils apprennent à laver leur linge sale parce que quand ils se marient, oui, ils vont apprécier leur femme si c'est elle qui le fait.
Ouais.
Ou peut-être c'est lui qui va le faire pour sa femme. Nous vivons dans le monde actuel où souvent le mari et la femme travaillent, et là on a besoin de partager les tâches à la maison, n'est-ce pas? Mais on a besoin dans l'église apprendre, développer. Parce que vous avez un don, peut-être Dieu vous a parlé dans votre cœur, et vous savez il y a quelque chose là, il faut dire, ok, comment est-ce que je peux développer ça? Qui peut m'apprendre? Où est-ce que je peux m'investir actuellement dans l'église pour développer ça? Et peut-être vous allez commencer chez le pouponnière, mais peut-être vous allez terminer avec les jeunes. Peut-être vous allez commencer, oui, en train de venir faire le ménage, et vous allez terminer ici dans l'écoute de louange, parce que Dieu vous a donné une voix, ou la capacité de jouer un instrument. Mais ces choses ont besoin d'être développées. Et le ministère est là, les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs sont là pour vous encourager et vous aider à devenir mature.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on voit que pour vraiment exercer notre ministère, il faut premièrement découvrir notre don. Et j'ai oublié de mentionner, hein, j'ai manqué pendant mon illustration là, le don de gouverner. Hein. Ça, c'est celui qui va dire, toi, va chercher un balai, toi, cherche un étui-tout. Il va organiser une équipe tout de suite pour que la job soit accomplie. Hein. Mais on va découvrir notre don, mais on a besoin de développer notre don aussi, comme Pastor John a dit. Mais une fois que c'est découvert, une fois que c'est en train d'être développé, on a besoin de déployer ce don-ci.
Oui.
On a besoin juste de l'utiliser. Hein? Oui. C'est comme sinon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens qui sont comme des soldats qui s'entraînent pendant des années et des années et des années. Ils sont des experts, ils savent comment utiliser leurs armes, mais ils n'ont jamais eu l'expérience du combat. Il y a combien de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui? Des personnes que ça fait des années que peut-être vous venez à l'église et vous écoutez les messages de la parole de Dieu. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais ce n'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais.
Oui.
Amen. Donc, ça ne donne pas grand-chose d'avoir une tête qui est remplie de connaissances, de pouvoir dire, « Wow, je suis vraiment doué. » Si votre don reste inutilisé, ça ne donne rien. Il faut le trouver, il faut le développer, mais ensuite il faut le déployer.
Oui.
Il y a un verset qu'on va lire là-dessus. En fait, l'apôtre Paul a exhorté à plusieurs reprises les personnes pour qui il avait beaucoup d'influence. Il dit par exemple en Colossiens 4, 17, « Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. » Pourquoi est-ce que, et c'est ça qu'une chose que je dis souvent le mercredi soir, quand on étudie les Épîtres, si le Saint-Esprit a pris la peine d'inspirer un certain verset dans les Épîtres ou dans la Bible, il y a une raison pour cela. Et si Paul avait besoin d'exhorter par l'Esprit à Archip de bien remplir son ministère, c'est parce que la tendance naturelle, c'est pour nous en tant que chrétiens, c'est de négliger et de ne pas garder notre don et de ne pas bien remplir nos ministères. Nous avons un penchant vers la paresse. Est-ce que vous avez remarqué cela? Nous avons une tendance naturelle à dire, ben, je suis doué, j'ai des choses que le Seigneur veut que je fasse, mais on a besoin vraiment, vraiment de ranimer ces dons et de prendre une décision de qualité, une résolution que je vais mettre ces dons au service des autres.
Oui.
Je ne peux pas mettre ça dans un musée spirituel quelque part. Je ne peux pas juste imprimer ça sur une carte d'appel. Combien de personnes que je connais, ils ont des cartes d'appel. Voici mon nom et puis ils vont donner une étiquette. Évangéliste ou ceci ou prophète. Mais moi, je m'intéresse plus aux fruits du ministère qu'une étiquette. Hein? Peu importe qu'est-ce que vous mettez sur... vous pouvez écrire Poutine sur une canette de... sauce à poutine sur une canette de soupe, mais ça ne change pas le contenu. Vous êtes d'accord? Hein? C'est la même chose spirituellement. On a besoin de savoir qu'est-ce que nous avons à l'intérieur, de développer ce don, mais de déployer ce don. 2 Timothée 4, 5 dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, mais remplis bien ton ministère. » Regarde ton voisin et dis, « Remplis bien ton ministère. »
Remplis bien ton ministère.
Vous savez, il est important. Parce que si... vous ne remplissez, si vous ne remplissez pas bien votre ministère, les autres ne vont pas être capables de remplir bien leur ministère. Si la main ne fonctionne pas, le bras est limité, n'est-ce pas? Ou si le bras ne fonctionne pas, la main est limitée. On est interdépendant. On a vraiment un esprit d'indépendance, souvent, aujourd'hui, en Amérique du Nord, surtout. Et en 2006, nous sommes des êtres indépendants, mais Dieu veut qu'on devienne interdépendant. Premièrement, on dépend de Dieu, et on peut aussi dépendre les uns des autres. Acte 20, 24 dit ceci, « Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. » C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. « Je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Est-ce que vous voulez accomplir la course que le Seigneur vous a confiée?
Amen.
Mais pas avec tristesse, pas en disant, « Ah oui, je vais aller à l'église aujourd'hui, je vais exercer mon ministère, il faut que je travaille, faire le ménage, ou travaille dans la pouponnière, ou il faut que je chante aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. » Non, mais c'est avec joie qu'on fait le ministère, n'est-ce pas?
Alléluia.
Parce que c'est un privilège.
Amen.
Mais il dit, il continue, « Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pour vous que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour déployer le ministère? Moi, je dirais que la première chose à faire, c'est de commencer. Commencer à prier, premièrement, « Seigneur, montre-moi, c'est quoi ton plan? » C'est quoi ta volonté? Commencez à vous assembler et à faire des liens avec les autres frères et sœurs dans le Seigneur parce que le travail que vous allez faire, vous n'allez pas le faire seul. Vous allez le faire comme une équipe.
Oui.
Mais commencez aussi à faire quelque chose. Mettez votre main à quelque chose. Entreprends quelque chose. Si vous n'êtes pas convaincu à 100% que c'est votre place, commencez quelque part quand même. J'ai remarqué une chose. Il n'y a pas longtemps que j'avais un problème avec ma camionnette, le servodirection ne marchait plus. Et aujourd'hui, une auto sans servodirection, c'est un peu difficile à tourner le volant. Vous êtes d'accord? Mais une fois qu'on commence à rouler, c'est moins pire. Est-ce que vous avez remarqué? On peut tourner le volant facilement si on a un peu de mouvement, n'est-ce pas?
Oui.
Mais si on reste sans bouger, ça prend presque deux mains pour tourner le volant. Et votre vie spirituelle est pareille. Si vous restez assis, vous ne faites rien, ça va être vraiment difficile pour le Seigneur de vous diriger et vous tourner et faire en sorte que vous suivez le bon chemin pour que vous soyez capable d'arriver à votre destination. Mais si vous vous mettez en marche, si vous faites quelque chose, même si on fait des ajustements par la suite, c'est pas grave. Mais la clé, et c'est ça la dernière chose dans vos notes, c'est que vraiment la fidélité est la clé du succès. Moi, je pense qu'il est plus important d'être fidèle que d'avoir du talent ou même d'être doué. Moi, j'aimerais beaucoup mieux, je dis souvent aux gens que vous savez que votre don peut vous amener là où votre caractère ne peut pas vous garder. Il y a certaines personnes qui, ils ont tellement de talent, ils sont des musiciens extraordinaires, et ils veulent tout de suite venir en avant et chanter et jouer la musique. Mais moi, je veux voir d'abord, est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous êtes prêt à être fidèle dans les petites choses? Parce que si vous êtes fidèle dans les petites choses, je sais que vous serez fidèle dans les grandes choses. Vous comprenez?
Oui.
Jésus a dit cela, et même ici, en 1 Corinthiens 4, 2, Paul l'a dit. Or, en fin du compte, c'est dans la parole vivante, que demande-t-on à des intendants, ou des gérants, on peut dire, ou des économes, n'est-ce pas d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée et de se montrer digne par la gérance honnête et désintéressée. Honnête et désintéressée. Vous savez, on ne fait pas du ministère pour être vu des hommes. On fait du ministère pour glorifier Jésus, de la confiance dont ils sont l'objet. Donc aujourd'hui, nous avons une belle occasion devant nous, hein, de prendre une décision de qualité, de sonder notre cœur, d'examiner notre vie, de dire, Seigneur, est-ce que j'ai découvert mon don? Peut-être vous n'avez jamais pensé à cela. C'est la journée où vous allez commencer à penser, Seigneur, je suis doué, j'ai quelque chose à faire, j'ai un ministère à exercer. Montre-moi. Et ça va être un processus. Mais commence à me montrer, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Vous savez déjà depuis longtemps c'est quoi que vous êtes appelé à faire, mais peut-être vous n'avez pas pris le temps de développer ces dons. Soumettez-vous hein, au plan de Dieu pour votre vie. Mettez-vous en contact avec les autres dans le corps de Christ. Suivez les enseignements des autorités spirituelles aussi. Et laisse-moi vous dire que ça va développer et ça va grandir dans votre cœur. Et puis finalement, prenez la décision de déployer votre don. Faites quelque chose. Moi, quand j'ai commencé dans le ministère, je commençais dans le ministère des cassettes. Première chose que j'ai fait dans mon église locale, c'est moi qui faisais les copies de toutes les cassettes à tous les dimanches. On avait quand même une grosse église de 300 à 500 personnes à une époque. Et laisse-moi dire, ça prenait du temps de faire les cassettes. Mais j'ai fait ça de tout mon cœur. J'ai fait ça avec excellence. Je voulais être sûr et certain que chaque étiquette était droite sur la cassette. Je faisais ça des fois, quand on avait des conférences, et beaucoup de monde qui avait commandé des cassettes, souvent je rentrais même à 10h jusqu'à 1h du matin pour être sûr que les étiquettes étaient droites sur les cassettes. Je fais ça de tout mon cœur. Pourquoi? Pour le Seigneur, parce que j'aimais Jésus et les gens avaient besoin de la parole. Après ça, j'ai commencé à nettoyer les toilettes dans l'église. Je connais pas beaucoup de pasteurs qui n'ont pas commencé par là, hein?
Exactement.
Presque tous les pasteurs que je connais qui sont dans le ministère, qui ont eu du succès, au moment donné, ils ont servi comme concierge dans une église.
Quand nous avons terminé notre école biblique, on est rentré en Angleterre. Je viens d'Angleterre, pour ceux qui ne savaient pas. Et on était en route pour la France et on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église? Et ils ont dit, deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez nettoyer l'église toutes les semaines et vous pouvez enseigner une soirée par semaine. Et on a dit, ok, donc on a fait 2 ans d'école biblique, on appelle pour la France et il veut qu'on nettoie l'église. Et c'était vraiment bien.
Amen.
Parce qu'on a nettoyé l'église de haut en bas. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui vient nettoyer mon église et c'est génial parce que je sais exactement ce que c'est de mettre à genoux, pas pour prier, mais pour nettoyer les toilettes.
Absolument. Et ça fait du bien. Mais juste pour vous dire que, osez commencer.
Ouais.
Fais quelque chose. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, on va commencer notre salon de ministère. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons préparé des kiosques pour tous les ministères qui sont déjà existants dans l'église. Et vous allez pouvoir faire le tour et voir une petite table avec une explication de chaque ministère. Et ça va peut-être vous donner le goût de participer à un de ces ministères. Et on a tout un processus à suivre qui est simple, mais efficace pour que vous soyez capable d'être épanoui et vraiment heureux dans votre ministère. On veut que tout le monde soit à sa place, fonctionnant dans sa grâce ici dans cette église. Et on va faire cela, ça va être vraiment une joie. Et avant de faire cela, par exemple, on va prier. Et ensuite, Sylvain Toujon va venir nous expliquer comment le salon de ministère va fonctionner. Mais j'ai hâte aujourd'hui, j'ai hâte de voir chaque membre de cette église répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes tous appelés. Moi, j'ai un appel pour être pasteur. Mais mon appel n'est pas plus important que votre appel.
Amen.
Il faut que vous soyez convaincus de cela. Regardez-moi droit dans les yeux. Votre appel a autant d'importance que mon appel. Moi, je veux regarder tout le monde. Vous avez quelque chose à faire. Vous avez une destinée, un ministère, un service à rendre pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et si vous ne faites pas qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, quelqu'un d'autre va souffrir. Le ministère de quelqu'un d'autre ne sera pas aussi efficace qu'elle aurait pu être. Vous avez besoin de prendre cette décision. Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Nous avons tous besoin de Jésus.
Amen.
Amen. Mais est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier ce matin? Et avec tous les yeux fermés, vous savez qu'à chaque dimanche matin, sans exception, on donne une invitation. On a dit à tout à l'heure que vous êtes doués. Mais ça, c'est vrai seulement et uniquement si vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous enseigne clairement que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et à cause du péché qui est entré dans le monde grâce à Adam et Ève, nous avons tous reçu une nature pécheresse et nous sommes séparés d'avec Dieu. On appelle ça la mort spirituelle. Nous sommes morts spirituellement. Même si on marche et notre corps physique est en vie, si on ne connaît pas Jésus, notre esprit est séparé d'avec Dieu, mort spirituellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que en Jésus, on peut recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et on peut passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. On peut, comme Jésus a dit, naître de nouveau. Et ce matin, La nouvelle naissance est offerte à chaque membre de la race humaine. C'est un don gratuit. On ne peut pas mériter. Ce n'est pas une question de faire partie d'une religion, une confession, une église. Ce n'est pas une question de venir à l'église chrétienne, la vie comblée. Nous sommes juste une église locale parmi beaucoup de bonnes églises locales. Ce n'est pas notre église qui sauve. Ce n'est pas un secte qui dit que si tu ne fais pas partie de notre groupe, que tu ne peux pas te sauver. Oublie ça. Ça, c'est un mensonge. Mais qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de Jésus. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas sûr et certain, vous n'avez pas une assurance totale d'avoir la vie éternelle, vous pouvez aujourd'hui même recevoir ce don et quitter ce lieu, une nouvelle création en Jésus. Les choses anciennes vont être passées, toutes choses vont devenir nouvelles. Tous les péchés de vos passés vont être effacés et mis dans un mer d'oubli comme si ça n'existe même pas. Mais avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a une personne, deux personnes plus ce matin qui dirait, pasteur, j'ai besoin de faire cette prière, j'ai besoin de confesser Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je veux donner ma vie à Jésus. Juste lever la main. Si vous êtes là, vous avez besoin de recevoir Jésus. Je ne vous demande pas de changer d'église ou quoi que ce soit. Je vous demande de changer de royaume dans le sens que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont déjà dans le royaume des ténèbres et tous ceux qui connaissent Jésus sont dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait, mais à chaque dimanche matin, sans exception, je donne cette occasion. Il y a une personne qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Jésus-Christ, c'est pas Pasteur Ken Taylor, mais Jésus-Christ a dit ceci. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. C'est une chose quand même sérieuse, mais quelle joie de pouvoir recevoir ce don gratuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lèverait la main en disant, oui, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Je veux sortir d'ici sachant, sans aucune doute, que je suis né de nouveau, que mon esprit est en communion avec Dieu. Il y a une autre personne qui a levé la main. Quelqu'un d'autre? On va prier. Une troisième qui a levé la main ce matin. Gloire à Dieu. Soyez pas gênés. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? On va tous prier cette prière. Et ceux et celles qui ont levé la main, je veux juste que tu pries cette prière du fond de ton cœur. Dieu est là ce matin. Dieu entend cette prière. Et Dieu exauce cette prière ce matin. Donc, priez cette prière. Père, au nom de Jésus.
Père, au nom de Jésus.
Je viens à toi.
Je viens à toi.
Et je confesse avec ma bouche.
Et je confesse avec ma bouche.
Que Jésus-Christ.
Que Jésus-Christ.
Est mon Sauveur.
Est mon Sauveur.
Est mon Seigneur.
Est mon Seigneur.
Je crois de tout mon cœur.
Je crois de tout mon cœur.
Que Jésus est ressuscité.
Que Jésus est ressuscité.
Qu'il a payé le prix pour mes péchés.
Qu'il a payé le prix pour mes péchés.
Que son sang.
Que son sang
qui a été versé sur la croix,
qui a été versé sur la croix, m'a lavé
et m'a purifié,
et m'a purifié.
Entre dans mon cœur,
entre dans mon cœur.
Par ton Esprit Saint,
par ton Esprit Saint.
Fais de moi une nouvelle création,
une nouvelle création.
Et à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais vivre pour toi, Jésus. Parce que tu es mort pour moi. Toute ma vie
t'appartient.
Je vais t'adorer.
Je vais te connaître.
Je vais te servir, Seigneur. Tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces trois personnes qui ont fait cette prière? Amen. Oui, Jésus.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.